En 1999, je me promenais près de chez moi quand j'ai été heurté de plein fouet par un type au volant d'une fourgonnette. Il roulait à près de 65 km/h et la collision aurait dû me tuer. J'imagine que j'ai dû tenter de l'éviter au dernier moment en faisant un mouvement quelconque dont je ne garde aucun souvenir. Le souvenir que je garde, en revanche, c'est le contre-coup. D'un événement qui s'est produit en 2 ou 3 secondes sur le bas-côté d'une route de campagne dans le Maine, ont résulté 2 ou 3 ans de kinésithérapie et de lente rééducation. Au cours de ces longs mois, passés à récupérer d'abord une certaine latitude de mouvement dans ma jambe droite, avant de réapprendre à marcher, j'ai eu largement le temps de réfléchir à ce que certains philosophes appellent la question de la douleur. Cette nouvelle parle de ça, et je l'ai écrite des années plus tard, le pire de ma propre douleur s'étant atténué pour se maintenir au niveau d'un grommellement bas et régulier. De même que plusieurs autres nouvelles de ce recueil, le petit dieu vert de l'agonie est la quête d'une conclusion. Mais, à l'instar de toutes les nouvelles de ce recueil, son objectif principal est de divertir. Bien que les expériences de la vie soient la base de tout récit, je ne fais pas commerce de fiction confessionnelle. Le petit dieu vert de l'agonie. J'ai eu un accident, dit Newsom. Assise près du lit, occupée à attacher l'une des 4 électrodes du TENS à la cuisse malingre de Newsom, juste en dessous du short de basket qu'il portait maintenant tout le temps, Catherine McDonald ne leva pas les yeux. Son visage était prudemment dénué d'expression. Elle était un meuble dans cette grande chambre où elle passait désormais la majeure partie de sa vie professionnelle, et il lui plaisait qu'il en soit ainsi. Attirer l'attention de M. Newsom était généralement une mauvaise idée, ainsi que tous ses employés le savaient, ce qui n'empêchait pas ses pensées de suivre leur cours. « Maintenant, tu vas leur dire qu'en fait c'est toi qui as causé l'accident, parce que tu penses qu'assumer ta responsabilité te fait passer pour un héros. » « En fait, dit Newsom, c'est moi qui ai causé l'accident. Moins serré, Kat, s'il vous plaît. » Elle aurait pu faire remarquer, comme elle l'avait fait au début, que les électrodes du TENS perdaient de leur efficacité si elles n'étaient pas placées en contact étroit avec les nerfs indignés qu'elles étaient censées soulager, mais elle apprenait vite. Elle desserra un peu la bande velcro tout en poursuivant le cours de ses pensées. Le pilote a dit qu'il y avait des orages dans la région d'Omaha. « Le pilote m'a dit qu'il y avait des orages dans cette partie du monde, » poursuivit Newsom. Les deux autres hommes l'écoutaient attentivement. Jensen connaissait déjà l'histoire par cœur, bien sûr, mais l'on écoute toujours attentivement quand l'homme qui parle est la 6e fortune non seulement d'Amérique, mais du monde, et que 3 des 5 autres super-riches de la planète sont des types basanés en djellaba qui parcourent des pays désertiques à bord de Mercedes-Benz blindés. « Mais je lui ai dit qu'il était impératif que j'assiste à cette réunion. »« Mais je lui ai dit qu'il était impératif que j'assiste à cette réunion. » Celui qui intéressait Kat, d'une façon pour ainsi dire anthropologique, était l'homme assis à côté du secrétaire personnel de Newsom. Il s'appelait Rideout. Il était grand et mince, la 60aine peut-être, vêtu d'un pantalon gris ordinaire et d'une chemise blanche boutonnée au ras de son cou décharné rougi par le feu du rasoir. Kat supposait qu'il avait tenu à être rasé de près pour rencontrer la 6e fortune du monde. Sous sa chaise, il avait déposé le seul bagage dont il s'était muni pour assister à ce rendez-vous. Une longue boîte à déjeuner noire au couvercle arrondi, destinée à loger une bouteille thermos. Une gamelle d'ouvrier, même si la profession qu'il prétendait exercer était celle de pasteur. Jusque-là, M. Rideout n'avait pas prononcé un seul mot, mais Kat n'avait pas besoin d'entendre le son de sa voix pour savoir ce qu'il était. Il sentait le charlatan à plein nez, encore plus fort que son après-rasage. En 15 ans de pratique en tant qu'infirmière spécialiste de la douleur, Kat en avait rencontré sa part. Au moins, celui-ci n'était-il pas bardé de cristaux. « Maintenant, parle-leur de ta révélation, » pensa-t-elle tout en transportant son tabouret de l'autre côté du lit. C'était un tabouret à roulettes, mais Newsom n'aimait pas le bruit qu'il faisait quand elle se déplaçait dessus en le faisant rouler. À un autre patient, elle aurait fait remarquer que transporter son tabouret ne figurait pas dans son contrat de travail. Mais quand on est payé 5 000 $ par semaine pour remplir des fonctions qui relèvent essentiellement de l'assistance à la personne, on garde ses remarques pertinentes pour soi. On ne disait pas non plus au patient que vider et laver son bassin hygiénique ne faisait pas partie du contrat. Même si, depuis peu, sa soumission silencieuse commençait à s'effilocher dangereusement. Elle le sentait venir, comme l'étoffe d'une chemise trop longtemps lavée et portée. Newsom s'adressait principalement au type à l'allure de paysan endimanché. « Alors que je gisais sur la piste, Sous la pluie, parmi les morceaux de carlingue en feu d'un avion de 14 millions de dollars, la plupart de mes vêtements arrachés de mon corps, c'est ce qui arrive quand on heurte le tarmac et qu'on roule sur 10 ou 20 mètres, j'ai eu une révélation. Deux, en fait, songea Kat, tout en serrant les sangles d'une deuxième électrode autour de l'autre jambe amaigrie, à la chair ramollie et couturée de cicatrices. Deux révélations, en fait, dit Newsom. La première, c'est qu'il faisait bon être en vie, même si j'avais compris, avant même que la douleur qui n'a cessé d'être ma fidèle compagne depuis 2 ans ne s'impose après le choc, que j'étais grièvement blessé. La deuxième, c'est que le mot « impératif » est employé très à la légère par la plupart d'entre nous, y compris mon ancien moi. Il y a 2 impératifs seulement dans l'existence humaine. Le premier, c'est la vie elle-même. Le deuxième, c'est la libération de la douleur. Êtes-vous d'accord avec ça, révérend Rideout? Et avant que Rideout n'en convienne, car il ne ferait assurément rien d'autre, Newsom gronda de sa voix impérieuse de vieillard irritable. « Pas si serré, bon sang, Kat. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise ?»« Pardon, » murmura-t-elle. Elle desserra la sangle. Mélissa, la gouvernante, l'air pimpant en tunique blanche et pantalon à pinces à taille haute, blanc lui aussi, entra avec le plateau du café. Jensen en accepta une tasse, accompagnée de 2 sachets d'édulcorant artificiel. L'autre type, le soi-disant révérend sorti d'on ne sait quel bled, se contenta de secouer la tête. Peut-être transportait-il un quelconque café béni dans sa bouteille thermos? Kat ne s'en vit point offrir. Quand elle prenait un café, c'était à la cuisine en compagnie des autres membres du personnel, ou dans le pavillon d'été, sauf qu'on n'était pas en été. On était en novembre, et des bourrasques de pluie cinglaient les vitres. « Je vous branche, monsieur Newsom, ou préférez-vous que je sorte ?» Elle n'avait pas envie de sortir. Elle avait entendu toute l'histoire maintes fois auparavant. La réunion importante à Omaha, le crash, Andrew Newsom éjecté de l'avion en flammes, les multiples fractures, la colonne vertébrale fêlée, la hanche déboîtée, les 24 mois de souffrance sans rémission qui avaient suivi, et ça la barbait. Mais Rideout était du genre intéressant. D'autres charlatans suivraient indubitablement, maintenant que toutes les ressources de soulagement honorable avaient été épuisées. Mais Rideout était le premier, et Kat voulait voir comment le type à l'allure de paysan allait s'y prendre pour délester Andy Newsom d'une bonne partie de son argent liquide, ou essayer de le faire. Ce n'était pas en étant stupide que Newsom avait amassé sa fortune, mais naturellement il n'était plus le même homme, quelle que soit la réalité de sa douleur. Kat avait son opinion sur le sujet, mais ce boulot était le meilleur qu'elle avait jamais eu, du moins en termes d'argent. Et si Newsom voulait continuer à souffrir, c'était son choix, non? « Allez-y, ma jolie, branchez-moi. » Et il frétilla des sourcils en disant ça. Naguère, la grivoiserie aurait pu être réelle. Kat pensait que Mélissa aurait pu en témoigner. Mais à présent, elle avait juste affaire à une paire de sourcils broussailleux fonctionnant sur la mémoire musculaire. Kat brancha les câbles dans l'unité de contrôle et tourna le bouton. Fixé correctement, les électrodes du TENS auraient envoyé un faible courant électrique dans les muscles de Newsom, thérapie qui semblait avoir certains effets bénéfiques, même si personne ne savait expliquer exactement pourquoi ou dire si elle relevait entièrement de l'effet placebo. Quoi qu'il en soit, celle-ci n'aurait aucun effet sur Newsom ce soir. Ajustées aussi lâches, les électrodes étaient réduites à 2 coûteux joujoux. « Dois-je... »« Rester !» ordonna-t-il. « Kinésithérapie !» Le seigneur blessé dans la bataille ordonne, et j'obéis. Elle se pencha pour retirer sa boîte à malice de sous le lit. Celle-ci était remplie d'instruments que nombre de ses clients antérieurs avaient qualifiés d'instruments de torture. Jensen et Rideout ne faisaient pas attention à elle. Ils continuaient à regarder Newsom qui avait peut-être, ou peut-être pas, reçu des révélations ayant modifié ses priorités et son regard sur la vie, mais qui aimait toujours autant être le centre d'une cour d'admirateurs. Il leur raconta comment il s'était réveillé dans une cage de métal et de pansements. Il avait des poulies en acier appelées « système de fixation externe » sur les 2 jambes et sur 1 bras afin d'immobiliser ses articulations réparées avec environ 100 de broches d'acier, 17 en fait, Kat avait vu les radios. Les fixateurs externes étaient fichés dans les fémurs, tibia, humérus, radius, cubitus blessés et broyés. Il avait le dos pris dans une sorte de cotte de maille allant des hanches à la nuque. Il parla de nuits d'insomnie qui semblaient se prolonger non pendant des heures, mais pendant des années. Il parla des maux de tête écrasants. Il leur raconta comment ne serait-ce que remuer les orteils lui déclenchait une douleur jusque dans les mâchoires. et l'agonie à hurler, dont ses jambes étaient la proie quand les médecins insistaient pour qu'il les bouge, avec fixateurs externes et tout, afin de ne pas en perdre totalement l'usage. Il leur raconta les escarres et comment il ravalait des hurlements de douleur et d'indignation quand les infirmières tentaient de le faire rouler sur le flanc afin de pouvoir purger les plaies purulentes. « J'ai dû subir une douzaine d'opérations supplémentaires au cours des deux dernières années », annonça-t-il, avec une espèce de secrète fierté. En fait, Kat savait qu'il n'en avait subi que cinq, dont deux pour retirer les fixateurs externes une fois les os suffisamment ressoudés. À moins, bien sûr, de compter l'intervention mineure pour remettre en place les os des doigts fracturés. Dans ce cas, on pouvait dire qu'il y en avait eu six, mais Kat ne considérait pas comme des opérations des interventions chirurgicales ne nécessitant pas plus qu'une anesthésie locale. Car dans ce cas, elle-même aurait pu dire qu'elle en avait subi une douzaine, la plupart en écoutant de la musique d'ascenseur dans un fauteuil de dentiste. « Maintenant, les fausses promesses », pensa-t-elle, tout en plaçant un coussinet de gel au creux du genou droit de Newsom et en refermant ses mains entrelacées sur les muscles flasques de sa cuisse droite. « C'est là qu'on en est. » « Les médecins m'ont promis que la douleur diminuerait, » dit Newsom. Il avait les yeux fixés sur Rideout. « Qu'en six semaines, j'aurai seulement besoin des narcotiques avant et après mes séances de kinésithérapie, avec la reine de la douleur que voici. Que je remarcherai avant l'été 2010, l'été dernier !» Il marqua une pause pour les faits. « Tout ça, révérend Rideout, c'était des fausses promesses. Je n'ai récupéré quasiment aucune flexion dans les genoux et la douleur dans mes hanches et mon dos est indescriptible. Les médecins... Ah! Oh! Arrêtez, Kat! Arrêtez! » Elle lui avait soulevé la jambe droite à un angle de 10 degrés, peut-être un peu plus. Même pas assez pour maintenir en place le coussinet de gel. Laissez-la redescendre! Laissez-la redescendre, bon sang! Kat relâcha son étreinte sur son genou et la jambe reprit sa position horizontale sur le lit médicalisé. 10 degrés, peut-être 12. Ouah, la belle affaire. Parfois, elle arrivait à la faire aller jusqu'à une flexion de 15, et la jambe gauche, qui était un peu moins mal en point, jusqu'à une flexion de 20, avant qu'il ne se mette à hurler comme un gosse trouillard qui aperçoit la seringue hypodermique dans la main du médecin scolaire. Les médecins coupables de fausses promesses n'avaient pas été coupables de fausses annonces. Ils lui avaient dit que la douleur était en vue. Kat avait assisté en silence à plusieurs de ses consultations. Il lui avait dit qu'il nagerait dans la douleur avant que ses tendons cruciaux, raccourcis par l'accident et figés par les fixateurs, ne s'étirent et redeviennent souples. Il connaîtrait largement la douleur avant d'être capable de plier les genoux à 90 degrés, c'est-à-dire avant d'être capable de s'asseoir sur une chaise ou au volant d'une voiture. Idem pour la nuque et le dos. La route de la guérison passait par le pays de la douleur, voilà tout. Ça, c'était des vraies promesses qu'Andrew Newsom avait choisi de ne pas entendre. Sa croyance, jamais énoncée frontalement, mais sans aucun doute l'une des étoiles sur lesquelles il basait sa navigation, étant que la sixième fortune du monde ne devrait en aucun cas avoir à visiter le pays de la douleur, mais seulement la Costa del Sol de la totale guérison. À ça succédait la mise en accusation des médecins comme à la nuit succède le jour, et, évidemment, il accusait le destin. Des choses comme ça n'étaient pas censées arriver à des types comme lui. Mélissa revint avec un plateau de biscuits. Newsom la rabroua vertement en agitant une main tordue et couturée de cicatrices par l'accident. « Personne n'est d'humeur à déguster des pâtisseries, Lisa. » Voilà autre chose que Kat McDonald avait découvert à propos de ces riches privilégiés qui ont amassé des biens au-delà de toute compréhension logique. Ils trouvent tout naturel de s'exprimer au nom de tout le monde dans la pièce. Mélissa esquissa son petit sourire de joconde avant de pivoter sur ses talons, de pirouetter quasiment, et de quitter la pièce. De flotter hors de la pièce. Elle devait avoir au moins 45 ans, mais en paraissait moins. Elle n'était pas sexy, non, rien d'aussi vulgaire. Il émanait plutôt d'elle une aura de froideur princière qui pour Kat évoquait Ingrid Bergman. Froideur ou pas, Kat supposait que les hommes ne manquaient pas de se demander quelle allure aurait cette chevelure châtaine libérée de ses pinces, et toute décoiffée sur un oreiller. Quel attrait aurait ce rouge à lèvres corail étalé sur ses dents et sa joue? Kat, qui se trouvait boulotte, se disait au moins une fois par jour qu'elle n'était pas jalouse de ce visage lisse et calme, ni de ce ferme fessier en forme de cœur. Kat retourna de l'autre côté du lit, se préparant à soulever la jambe gauche de Newsom jusqu'à ce qu'il lui crie d'arrêter, bon sang. Voulait-elle le tuer? Si tu étais un autre patient, je te dirais tes quatre vérités, pensa-t-elle. Je te dirais d'arrêter de chercher des raccourcis parce qu'il n'y en a pas, même pas pour la sixième fortune du monde. Je t'aiderais si tu m'y autorisais, mais tant que tu cherches à acheter ton billet de sortie de ce lit, débrouille-toi tout seul. Elle plaça le coussinet sous son genou, referma les mains sur les sacs de peau pendouillants qui auraient déjà dû commencer à se raffermir, commença à fléchir la jambe, attendit qu'il lui crie d'arrêter, ce qu'elle ferait, parce que $5,000 par semaine, ça faisait un chouette quart de million de dollars par an. Savait-il qu'une partie de ce qu'il achetait, c'était sa complicité dans son échec à progresser? Comment pouvait-il l'ignorer? Maintenant, fais-leur la liste des médecins, Genève, Londres, Madrid, Mexico. J'ai consulté des médecins dans le monde entier, dit-il à Rideout. Le révérend n'avait toujours rien dit, se contentant de rester assis là, avec les caroncules rouges de son cou rasées de trop près pendant au-dessus du col de sa chemise de prédicateur de campagne boutonnée jusqu'en haut. Il avait de grosses chaussures de sécurité jaunes aux pieds. Le talon de l'une d'elles touchait presque sa gamelle noire d'ouvrier. Les visioconférences seraient la solution la plus facile, compte tenu de mon état. Mais naturellement, ça ne convient pas dans des cas comme le mien. Je me suis donc déplacé en personne, en dépit de la douleur que cela m'occasionne. Nous avons été partout, n'est-ce pas, Kat ?
Partout, en effet, dit-elle.
Très lentement, elle continuait à lui fléchir la jambe, sur laquelle il serait déjà en train de marcher s'il n'était pas un tel bébé face à la douleur. Un tel enfant gâté. Avec des béquilles, oui, mais debout et en train de marcher. Et dans un an de plus, il aurait pu se débarrasser des béquilles. Seulement, d'ici un an, il serait encore là, dans ce lit médicalisé, dernier cri à $200,000. Et elle serait encore là avec lui, à encaisser l'argent de son silence. Combien lui suffirait? 2 millions? C'est ce qu'elle se disait à présent. Mais il n'y avait pas si longtemps, elle s'était dit qu'un 500 000 suffirait, pour ensuite placer la barre plus haut. L'argent était vil en ce sens. Nous avons vu des spécialistes à Mexico, Genève, Londres, Rome, Paris, ou encore Kat.
Vienne, dit-elle, et San Francisco, bien sûr.
Newsom eut un reniflement de mépris. Ce médecin-là m'a dit que j'étais l'artisan de ma propre douleur, conversion hystérique d'après lui, pour m'épargner le rude labeur de la rééducation. Mais c'était un paquis et un pédé. Un paquis pédé, si c'est pas une drôle de combinaison. Il lâcha un bref jappement de rire, puis scruta le visage de Rideout. Je ne vous offense pas, n'est-ce pas, révérend? Rideout fit aller sa tête de droite à gauche en signe de dénégation. Deux fois, très lentement.
Bien, bien. Arrêtez, Kat, ça suffit.
Encore un peu, l'amadoua-t-elle. Arrêtez, j'ai dit. C'est le maximum que je peux supporter. Elle laissa la jambe se rallonger et commença à manipuler le bras gauche. Ça, il le permettait. Il disait souvent aux gens qu'il avait aussi eu les deux bras cassés, mais ce n'était pas vrai. Le bras gauche avait seulement été foulé. Il disait aussi aux gens qu'il avait de la chance de ne pas être en chaise roulante, mais le lit médicalisé multisonnette et coup de sifflet suggéraient fortement que c'était une chance sur laquelle il n'avait pas l'intention de capitaliser dans un futur proche. Le lit médicalisé multisonnette et coup de sifflet était sa chaise roulante. Il avait sillonné le monde entier dedans. Douleur névropathique, c'est un grand mystère, peut-être insoluble. Les médicaments n'ont plus aucun effet.
Le consensus est que je souffre de douleurs névropathiques.
Et de lâcheté.
C'est un grand mystère.
Et aussi une bonne excuse.
Peut-être insoluble.
Surtout quand on n'essaie pas.
Les médicaments n'ont plus aucun effet et les médecins ne peuvent rien pour moi. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir, révérend Rideout. Vos références en matière de... guérison sont très impressionnantes.
Rideout se leva. Kat n'avait pas réalisé à quel point il était grand. Son ombre derrière lui s'agrandit, montant encore plus haut sur le mur, presque jusqu'au plafond. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, considéraient Newsom avec solennité. Il avait du charisme, cela ne faisait aucun doute. Cela ne la surprenait pas. Les charlatans de ce monde ne s'en sortent pas sans ça. Mais elle n'avait mesuré ni l'importance, ni la puissance du sien, jusqu'à ce qu'il se lève et les domine de toute sa taille. Jensen tendait carrément le cou pour pouvoir le voir tout entier. Kate perçut un mouvement du coin de l'œil.
Elle regarda et vit Melissa debout sur le seuil. Donc, maintenant, ils étaient tous là, à l'exception de Tonya, la cuisinière. Dehors, le sifflement du vent se changea en glapissement. Les carreaux tremblèrent aux fenêtres. « Je ne guéris pas, » dit Rideout. Il venait de l'Arkansas, croyait savoir Kat. C'était là-bas du moins que le tout dernier Gulfstream 4 de Newsom était allé le chercher. Mais sa voix était dénuée d'accent et d'intonation. « Non ?» Newsom paraissait déçu, vexé, peut-être même de l'avis de Kat, un peu effrayé. « J'ai dépêché une équipe d'enquêteurs et ils m'ont assuré que dans nombre de cas, j'expulse. » Les sourcils broussailleux se soulevèrent. « Pardon ?» Rideout s'approcha du lit et se tint là avec ses mains aux longs doigts nonchalamment croisés à hauteur de laine. Ses yeux profondément enfoncés observaient d'un regard sombre l'homme allongé dans le lit. « J'extermine le parasite du corps souffrant dont il se nourrit, tout comme un exterminateur d'insectes nuisibles extermine les termites d'une maison dont elles se nourrissent. « Eh ben, » songea Kat, « j'aurais absolument tout entendu. » Mais Newsom était fasciné, comme un gosse qui regarde un expert de Bonto étaler ses trois cartes à un coin de rue, pensa-t-elle. « Vous êtes possédé, monsieur. »« Oui, » dit Newsom, « c'est l'impression que j'ai, surtout la nuit. Les nuits sont très longues. » »« Tout homme ou toute femme qui souffre est possédé, bien sûr. Mais chez certaines personnes infortunées, dont vous êtes, le problème est plus profond. La possession n'est pas un phénomène passager, mais une condition durable, qui s'aggrave. Les médecins n'y croient pas parce qu'ils sont des hommes de science, mais vous y croyez, n'est-ce pas? Parce que vous faites partie de ceux qui souffrent. « Et comment ?» souffla Newsom. Kat, assise à côté de lui sur son tabouret, dut se retenir très fort pour ne pas lever les yeux au ciel. « Chez ces personnes infortunées, la douleur pave la voie à un dieu démon. Il est petit mais dangereux. Il se nourrit d'une souffrance particulière produite par certaines personnes particulières seulement. » « Génial !» pensa Kat. « Newsom va adorer ça. » Une fois que le dieu a trouvé comment entrer, la douleur devient agonie. Il se nourrit de vous jusqu'à épuisement. Puis il vous jette, monsieur, et poursuit son chemin. Kat se surprit à commenter. Quel est donc ce dieu? Certainement pas celui dont vous prêchez le nom. Celui-là est le dieu d'amour. C'est du moins ce que j'ai appris en grandissant. Jensen la regardait en fronçant les sourcils et en secouant la tête. Il s'attendait clairement à une explosion de la part du patron, mais un petit sourire avait effleuré le coin des lèvres de Newsom. « Que répondez-vous à ça, révérend ?»«
Je réponds qu'il existe de nombreux dieux. Le fait que notre Seigneur, le Seigneur Dieu des armées, les gouverne tous, et au jour du jugement dernier, les détruira tous, n'y change rien. Ces petits dieux ont toujours été vénérés tant par les anciens que par les modernes. Ils ont leur pouvoir, et notre Dieu permet parfois à ces pouvoirs de s'exercer.
« Comme une mise à l'épreuve, » songea Kat.
« Comme une mise à l'épreuve de notre force et notre foi. »
Preet Rideout se tourna vers Newsom et dit quelque chose qui l'a surpris.
« Vous êtes un homme de beaucoup de force et de peu de foi. »
Newsom, peu accoutumé à la critique, sourit néanmoins.
« J'ai peu de foi chrétienne, c'est un fait. » Mais j'ai foi en moi-même. J'ai aussi foi en l'argent. Combien voulez-vous ?
Rideout lui rendit son sourire, dévoilant des dents qui n'étaient guère plus que des stèles funéraires érodées. S'il avait jamais consulté un dentiste, c'était il y avait de nombreuses lunes de cela. Et aussi, il chiquait son tabac. Le père de Kat, qui était mort d'un cancer de la bouche, avait les mêmes dents attachées.
Combien seriez-vous prêt à payer pour être libéré de votre douleur, monsieur ?
10 millions de dollars ? Répondit aussitôt Newsom. Kat entendit le hoquet de Melissa.
« Mais je n'en suis pas arrivé où j'en suis en me faisant prendre pour une poire. Si vous faites ce que vous prétendez faire, expulser, exterminer, exorciser, appelez ça comme vous voudrez, vous repartez avec l'argent, en liquide, si ça ne vous dérange pas de passer la nuit là. Échouez, vous ne gagnez rien, sauf votre premier et dernier aller-retour en jet privé. Pour ça, je ne vous facturerai rien. Après tout, c'est moi qui suis venu vous chercher. »
Non.
Rideout prononça le mot avec douceur, debout, là, près du lit,
assez près de Kat pour qu'elle sente l'odeur de l'antimite qui, jusqu'à tout récemment, avait conservé intact son pantalon du dimanche, peut-être son seul pantalon, sauf s'il en mettait un autre pour prêcher. Elle percevait aussi une forte odeur de savon.
« Non ?» Newsom paraissait franchement stupéfait. « Vous me dites non ?»
Puis il se remit à sourire. Cette fois, c'était le sourire secret et assez déplaisant qu'il arborait quand il passait ses coups de téléphone et traitait ses affaires.
« Je comprends. C'est maintenant que vous me lancez votre balle courbe. Je suis déçu, révérend Rideout. J'espérais vraiment que nous serions sur la même longueur d'onde. »
Il se tourna vers Kat, qui se recula légèrement.
« Vous, naturellement, pensez que j'ai perdu la raison. Mais je ne vous ai pas fait part des rapports de mes enquêteurs, n'est-ce pas ?»«
Non, » dit-elle.
« Il n'y a aucune balle courbe, » dit Rideout. « Je n'ai pratiqué aucune expulsion depuis 5 ans. Vos enquêteurs vous ont-ils dit cela ?»
Newsom ne répondit rien. Les yeux levés, il regardait avec un certain malaise l'homme mince qui le dominait.
Jensen dit « Est-ce parce que vous avez perdu vos pouvoirs ? Si c'est le cas, pourquoi êtes-vous venu ?»«
C'est le pouvoir de Dieu, monsieur, pas le mien, et je ne l'ai pas perdu. Mais une expulsion exige une grande énergie et une grande force. Il y a 5 ans, j'ai été victime d'une grave crise cardiaque, peu après en avoir réalisé une sur une jeune fille blessée dans un terrible accident de voiture. Nous avons réussi, elle et moi, mais le cardiologue que j'ai consulté à Jonesboro m'a dit que si je me dépensais encore de la sorte, je risquais une autre crise cardiaque, fatale celle-là. »
Newsom porta, non sans effort, une main noueuse à sa bouche et, en un comique aparté théâtral, glissa à Kat et Melissa.
« Je crois qu'il veut 20 millions. »«
Ce que je veux, monsieur, c'est 750 000. »
Newsom resta là, à le fixer du regard. Ce fut Melissa qui demanda « Pourquoi ?»«
Je suis pasteur d'une église à Titusville, l'église de la Sainte-Foy. Sauf que cette église n'existe plus. Nous avons eu un été sec dans notre partie du monde. Un feu de broussailles, déclenché par des campeurs, ivres, a ravagé mon église, réduite maintenant à une dalle de béton et quelques poutres carbonisées. Moi et mes ouailles avons continué à tenir notre culte dans une ancienne station-service épicerie abandonnée sur l'autoroute de Jonesboro. Ce n'est guère satisfaisant durant les mois d'hiver et aucune maison particulière n'est assez grande pour nous accueillir. Nous sommes nombreux, mais pauvres. »
Kat écoutait avec intérêt. En fait, de boniment, celui-ci était excellent. Il comportait toutes les bonnes accroches pour susciter la compassion. Jensen, qui avait encore le corps d'un sportif universitaire assorti de l'esprit d'un diplômé d'Harvard, posa la question évidente.
« Assurance ?»
Rideout, encore une fois, secoua la tête de cette même façon appliquée. Gauche, droite, retour au centre. Il était toujours debout, dominant le lit médicalisé dernier cri de Newsom, tel un ange gardien de Cambrousse. « Nous nous en remettons à Dieu. »«
Vous auriez été mieux assuré avec Allstate ?» dit Melissa.
Newsom souriait. Kat voyait bien à la raideur de son corps que son inconfort s'aggravait. Il aurait déjà dû avoir pris ses cachets depuis une demi-heure, mais il ignorait la douleur parce qu'il était intéressé. Qu'il puisse ignorer la douleur était quelque chose qu'elle savait depuis un certain temps déjà. Il était capable de maîtriser la douleur s'il le voulait, il en avait les ressources. Kat avait pensé être simplement irrité par cet état de fait, mais à présent, aiguillonnée probablement par l'apparition du charlatan de l'Arkansas, elle découvrit que ça la rendait en réalité furieuse. C'était un tel gâchis.
J'ai consulté un entrepreneur local, pas une de mes ouailles, mais un homme de bonne réputation qui a fait quelques travaux pour moi par le passé et applique un juste prix. Il m'a dit qu'il en coûterait approximativement 750 000 dollars pour la reconstruction.
Ah bon ? Songea Kat.
Nous ne disposons pas de telles ressources financières, évidemment. Mais voilà que, même pas une semaine après avoir consulté M. Kiernan, je reçois votre lettre, accompagnée du DVD, que, soit dit en passant, j'ai regardé avec grand intérêt.
« Je veux bien te croire, » pensa Kat, surtout le passage où le toubib de San Francisco dit que la douleur résultant de ses blessures peut être grandement soulagée par des exercices de kinésithérapie.
des exercices rigoureux de kinésithérapie. Il était exact qu'une dizaine d'autres médecins sur le DVD s'étaient déclarés impuissants. Mais Kat croyait bien que le docteur Delaware était le seul qui avait eu le courage de parler franchement. Elle avait été surprise que Newsom laisse partir le DVD avec cette consultation dessus, mais depuis son accident, la sixième fortune du monde avait quelques boulons de dévissés.
« Me paierez-vous suffisamment pour reconstruire mon église, monsieur ?»
Newsom l'examina. Il avait maintenant de petites perles de sueur sur le haut du front qu'il commençait à avoir dégarnies. Kat allait lui donner ses cachets dans pas longtemps, qu'il les demande ou non. La douleur était réelle, pas de doute. Ce n'était pas comme s'il jouait la comédie ni rien, c'était juste.
« Conviendriez-vous de ne pas demander plus ? Je parle d'un engagement d'honnête homme. Nous n'avons pas besoin de signer quoi que ce soit. »
« Oui. » Bharat avait répondu sans hésitation. « Encore que si vous parvenez à ôter la douleur, à expulser la douleur, je pourrais fort bien ajouter une contribution d'importance. D'importance conséquente, ce que dans votre jargon vous appelez une offrande d'amour, je crois bien.
Il vous appartient d'en décider, monsieur. Pouvons-nous commencer ?
Maintenant ou jamais ? Voulez-vous que tout le monde sorte ?»
Bharat secoua à nouveau la tête. De gauche à droite, de droite à gauche, retour au centre.
J'aurais besoin d'assistants. Les magiciens en ont toujours besoin, pensa Kat. Ça fait partie du spectacle. Dehors, le vent glapit, se tut, se leva de nouveau. Des lumières vacillèrent. Derrière la maison, le groupe électrogène, dernier cri lui aussi, démarra en crachotant, puis se tut.
Bharat s'assit sur le bord du lit. Monsieur Jensen. Ici présent, je pense. Il me paraît fort et vif.
Il est les deux, dit Newsom. Il a joué au football à l'université. Demi-offensif. Il n'a pas perdu le rythme depuis.
Oh, si, un peu, dit Jensen avec modestie.
Bharat se pencha vers Newsom. Ses yeux sombres, profondément enfoncés dans leurs orbites, examinaient le visage couturé de cicatrices du milliardaire avec solennité.
Je vais vous poser une question, monsieur. « De quelle couleur est votre douleur ?»«
Verte, » répondit Newsom. Lui-même considérait le prédicateur avec fascination.
« Ma douleur est verte. »
Bharat hocha la tête. Haut, bas, retour au centre, sans lâcher Newsom du regard. Kat était persuadé qu'il aurait hoché la tête avec le même air de grave confirmation si Newsom avait dit que sa douleur était bleue ou aussi violette que le mangeur d'hommes de la chanson. Elle pensa avec un mélange de consternation et de réel amusement. « Je serais capable de perdre mon calme, là. J'en serais vraiment capable. Ça serait l'explosion de colère la plus coûteuse de ma vie, mais quand même, j'en serais capable. »
« Et où se trouve-t-elle ? »
« Partout. » C'était quasiment un gémissement. Mélissa fit un pas en avant en adressant un regard inquiet à Jensen. Kat le vit secouer légèrement la tête et lui faire signe de retourner sur le seuil de la porte.
« Oui, elle aime donner cette impression, » dit Rideout,
« mais elle ment. Fermez les yeux, monsieur, et concentrez-vous. Cherchez la douleur. Cherchez par-delà les faux appels qu'elle lance. Ignorez la facile ventriloquie et localisez-la. Vous pouvez le faire. Vous devez le faire, si nous voulons avoir la moindre chance de succès. » Newsom ferma les yeux. L'espace de 90 secondes, il n'y eut aucun autre bruit que le vent et la pluie éclaboussant les vitres comme autant de poignées de fin gravier.
La montre de Kat était un modèle à ressort, cadeau de son père de nombreuses années auparavant pour fêter son diplôme d'infirmière. Et quand le vent se calmait, la pièce était assez silencieuse pour qu'elle entende son tic-tac présomptueux.
Et autre chose aussi. À l'autre bout de la grande maison, la vieille Tonya Marston, chantant doucement une chanson traditionnelle tout en nettoyant la cuisine à la fin d'une autre journée. Enfin, Newsom dit « Elle est dans ma poitrine, haut dans ma poitrine, ou plutôt à la base de ma gorge, en dessous de la trachée.
Pouvez-vous la voir ? Concentrez-vous. »
Des rides verticales apparurent sur le front de Newsom. Entre ces sillons de concentration ondulaient des cicatrices laissées par la peau arrachée dans l'accident.
« Je la vois. Elle palpite au rythme de mes pulsations cardiaques. »
Ses lèvres s'abaissèrent en une expression de dégoût.
« C'est répugnant. » Rideout se pencha plus près. « C'est une boule ? C'est une boule, n'est-ce pas ? Une boule verte ?
Oui, oui, une petite boule verte, qui respire !»«
Comme la balle de tennis trafiquée que tu as sûrement cachée dans ta manche ou dans cette grande gamelle noire d'ouvrier que tu trimbales, révérend, » pensa Kat. Et comme si elle le contrôlait avec son esprit, au lieu de seulement déduire où cette ridicule petite pièce de théâtre allait ensuite les mener, Rideout dit « Monsieur Jensen, il y a une boîte à déjeuner sous la chaise où j'étais assis. Prenez-la, ouvrez-la et venez vous placer debout à côté de moi. C'est tout ce que vous avez à faire pour le moment, juste. » C'est là que Kat MacDonald craqua. Elle entendit carrément le crack dans sa tête. On aurait dit le claquement de doigts de Roger Miller dans l'intro de King of the Road. Elle s'avança à hauteur de Rideout et l'écarta d'un coup d'épaule. C'était facile. Il était plus grand qu'elle, mais elle avait passé presque la moitié de sa vie à retourner et soulever des patients. Elle était plus forte que lui. « Ouvrez les yeux, Indy. Ouvrez-les tout de suite. Regardez-moi. » Newsom sursauta et s'exécuta. Melissa et Jensen, qui avaient maintenant la boîte à déjeuner dans les mains, prirent un air alarmé. L'un des faits de leur vie professionnelle, et de celle de Kat, du moins jusqu'à maintenant, était qu'on ne donnait pas d'ordre au patron. Le patron vous donnait des ordres, et on ne le faisait certainement pas sursauter. Mais elle en avait plus qu'assez. D'ici 20 minutes, elle pourrait bien être en train de crapahuter derrière ses phares sur des routes balayées par la tempête en direction du seul motel du pays, mais peu importait, elle ne pouvait pas supporter ça plus longtemps. « C'est des conneries, Indy, » dit-elle. « Vous m'entendez ? Des conneries !»« Je pense que vous devriez cesser tout de suite, » dit Newsom, en commençant à sourire. Il avait plusieurs sourires, et celui-ci n'était pas l'un des meilleurs. « Si vous voulez garder votre emploi, je veux dire. Il y a plein d'autres infirmières spécialistes de la douleur dans le Vermont. » Elle aurait pu effectivement s'arrêter là. Mais Rideout dit « Laissez-la parler, monsieur. » Ce fut son intonation pleine de douceur qui la rendit folle. Elle se pencha en avant, pénétrant l'espace de Newsom, et les mots jaillirent comme un torrent. « Cela fait 16 mois depuis que l'amélioration de votre système respiratoire a permis d'entreprendre une kinésithérapie significative que je vous vois cloué à ce foutu lit de luxe et insulter votre corps. Cela me rend malade. Est-ce que vous savez à quel point vous avez de la chance d'être en vie alors que tous les autres passagers de cet avion ont été tués ? Quel miracle c'est que votre moelle épinière n'ait pas été sectionnée, ou votre crâne enfoncé dans votre cerveau, ou votre corps brûlé, non, rôti, rôti comme une pomme au four, de la tête aux pieds? Vous auriez vécu 4 jours, peut-être 15 d'agonie infernale. Au lieu de ça, vous avez été éjecté et sauvé. Vous n'êtes pas un légume, vous n'êtes pas quadriplégique, même si vous choisissez de faire comme si. Vous ne faites pas votre travail, vous cherchez une échappatoire. Vous voulez payer pour vous sortir de votre situation. Si vous mourrez demain et que vous allez en enfer, la première chose que vous ferez sera d'essayer de graisser la patte de Satan. » Jensen et Melissa la regardaient fixement, horrifiés. La bouche de Newsom béait. Si quelqu'un lui avait jamais parlé de cette façon, c'était il y a bien longtemps. Seul Rideout paraissait tranquille. C'était lui qui souriait maintenant, comme un père sourirait devant son gamin capricieux de 4 ans. Ça la rendait dingue. « Vous pourriez marcher à l'heure qu'il est. Dieu sait que j'ai essayé de vous faire comprendre ça, et Dieu sait que je vous ai dit, que je vous ai rabâché la somme de travail qu'il faudrait pour vous sortir de ce lit et vous remettre sur pied. Le docteur Delaware à San Francisco a eu le courage de vous le dire. Il a été le seul, et vous l'avez remercié en le traitant de PD. »«
C'était un PD, » dit Newsom.
Ses mains couturées de cicatrices étaient devenues des poings serrés.
« Vous souffrez ? Oui, bien sûr que vous souffrez. » Mais c'est une douleur gérable. Je l'ai vu gérer non pas une fois, mais quantité de fois. Mais pas par un Richard qui essaie de substituer son bon droit au dur labeur et aux larmes qu'il faut verser pour aller mieux. Vous refusez. Ça aussi je l'ai vu. Et je sais ce qui arrive toujours ensuite. Les charlatans et les escrocs arrivent, comme les sangsues arrivent quand un homme qui saigne entre dans une mare d'eau stagnante. Parfois les charlatans ont des crèmes magiques, parfois ils ont des pilules magiques. Les guérisseurs arrivent avec des prétentions mensongères sur le pouvoir de Dieu, comme l'a fait celui-ci. Généralement, leurs proies obtiennent un soulagement partiel, et c'est compréhensible, étant donné que la moitié de leur douleur est dans leur tête,
fabriquée par des esprits paresseux qui veulent seulement comprendre que ça leur fera mal d'aller mieux. » Elle monta dans des aigus enfantins, tremblotant et se pencha plus près. « Ça fait mal, papa !» Mais le soulagement ne dure jamais longtemps, parce que les muscles n'ont aucune tonicité, les tendons sont toujours mous, les os ne se sont pas assez renforcés pour supporter le poids du corps debout. Et quand vous rappellerez ce type au téléphone pour lui dire que la douleur est revenue, à condition que vous puissiez le rappeler, vous savez ce qu'il vous dira ? Que vous n'aviez pas suffisamment de foi. Si vous faisiez marcher votre cervelle maintenant, comme vous l'avez fait pour vos usines et tous vos investissements, vous sauriez qu'il n'y a pas de petite balle de tennis vivante à la base de votre gorge. Merde, Indy, vous êtes trop vieux pour croire au Père Noël.
Tonya était arrivée sur le seuil et se tenait à présent à côté de Mélissa, les yeux écarquillés, un torchon pendant mollement de l'une de ses mains.
« Vous êtes viré, » dit Newsom avec une quasi-affabilité.
« Oui, » dit Kat, « bien sûr que je suis viré, même si je dois dire que je ne me suis jamais senti aussi bien depuis près d'un an. »
« Si vous la licenciez, » dit Rideout, « je devrais aussi prendre congé. »
Les yeux de Newsom roulèrent dans la direction du révérend. Ses sourcils se rejoignaient avec perplexité. Ses mains s'étaient mises à pétrir ses hanches et ses cuisses, comme elle le faisait toujours quand l'heure de prendre ses cachets était dépassée.
« Elle a besoin d'être éduquée. Loué soit le saint nom de Dieu !»
Radat se pencha vers Newsom, ses propres mains nouées derrière le dos. Il rappelait à Kat une image du maître d'école de Washington Irving, Ichabod Crane, qu'elle avait vu un jour.
« Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Puis-je dire ce que j'ai à dire ?»
Newsom transpirait plus abondamment, mais il souriait à nouveau.
« Donnez-lui une leçon. Réduisez-la en pièces. Je crois que j'ai bien envie d'entendre ça. »
Kat fit face à Rideout. Ses yeux sombres et enfoncés dans leurs orbites étaient dérangeants, mais elle les affronta.
« Figurez-vous que moi aussi, » dit-elle.
Mains toujours nouées derrière le dos, crâne rose luisant discrètement à travers ses cheveux clairsemés, long visage solennel, Rideout l'examina. Puis il dit
« Vous n'avez jamais souffert vous-même, n'est-ce pas ?»
Kat eut envie de se cabrer face à cette question, ou de détourner les yeux, ou les deux. Elle la réprima. « Je suis tombé d'un arbre quand j'avais 11 ans, et je me suis cassé le bras. »
Rideout arrondit ses lèvres minces et siffla, une note sans timbre et quasiment atone. « Vous vous êtes cassé le bras quand vous aviez 11 ans ? Oui, la douleur a dû être atroce. »
Kat s'empourpra. Elle perçut la chaleur, la détesta, mais fut incapable de la réprimer.
« Rabaissez-moi tant que vous voudrez. Ce que j'ai dit est basé sur des années d'expérience auprès de patients confrontés à la douleur. C'est une opinion médicale. »
Maintenant, il va me dire qu'il expulsait déjà des démons ou des petits dieux verts ou va savoir quoi quand j'étais dans les langes.
Mais il n'en fit rien. « J'en suis persuadé, » l'apaisa-t-il. « Et je suis persuadé que vous faites bien votre métier. Je suis persuadé que vous avez vu votre lot d'imposteurs et de comédiens. Vous connaissez leur engeance, et je connais la vôtre, mademoiselle, parce que j'en ai vu maints spécimens auparavant. Rarement aussi jolis que vous. Finalement une trace d'accent, jolie au lieu de jolie. Mais leur attitude condescendante vis-à-vis de la douleur, une douleur qu'ils n'ont jamais éprouvée eux-mêmes. » Une douleur dont ils n'ont même pas idée est toujours la même. Ils travaillent dans des chambres de malades. Ils travaillent avec des patients qui connaissent divers degrés de détresse, de la douleur légère à la plus profonde et fulgurante agonie. Et au bout d'un certain temps, cela finit toujours par leur paraître ou bien exagéré ou bien carrément fabriqué. N'est-il pas vrai ?
Non, ce n'est pas vrai du tout, dit Kat.
Qu'arrivait-il à sa voix ? Subitement, elle était devenue toute petite.
« Non ? Quand vous pliez leurs jambes et qu'ils crient à 15 degrés, ou même à 10, est-ce que vous ne pensez pas, d'abord dans un coin de votre tête, puis de plus en plus frontalement, que ce sont des tire-au-flanc, qu'ils refusent de faire leur dur travail, peut-être même qu'ils cherchent à se faire plaindre ? Quand vous entrez dans leur chambre et que leurs visages pâlissent, est-ce que vous ne vous dites pas « Ah !» Il faut encore que je me coltine cette espèce de limace feignasse. N'êtes-vous pas, vous qui un jour êtes tombé d'un arbre et vous êtes cassé le bras, pour l'amour du ciel, de plus en plus dégoûté chaque jour,
quand ils implorent qu'on les rallonge dans leur lit et qu'on leur donne un peu plus de morphine ou autre ?»«
C'est trop injuste, » dit Kat, mais à présent sa voix était à peine plus haute qu'un murmure.
« Il fut un temps, lorsque tout ceci était encore nouveau pour vous. Vous saviez reconnaître l'agonie, » dit Rideout. « Il fut un temps où vous auriez cru ce que vous allez voir d'ici à peine quelques minutes, parce que vous saviez au fond de votre cœur qu'un intrus malin était logé là. Je veux que vous restiez afin que je vous rafraîchisse la mémoire, et votre sens de la compassion égaré en chemin par la même occasion. »
« Certains de mes patients sont des chochottes, » dit Kat en jetant un regard de défi à Newsom. « Je suppose que c'est cruel à entendre, mais parfois la vérité est cruelle. Certains sont des mollassons. Si vous ne savez pas ça, vous êtes aveugle ou stupide. Or, je pense que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. »
Radat s'inclina comme si elle lui avait fait un compliment, ce que, en un sens, elle supposait avoir fait.
« Bien sûr que je le sais.
Mais aujourd'hui, au plus profond de votre cœur, vous êtes convaincu que tous sont des mollassons. Comme un soldat qui a passé trop de temps sur le champ de bataille, vous vous êtes endurci. Monsieur Newsom est envahi, je vous le dis, infesté. Il y a un démon en lui si puissant qu'il est devenu un dieu, et je veux que vous le voyez lorsqu'il sortira. Je pense que cela améliorera considérablement les choses pour vous. Cela changera certainement votre regard sur la douleur.
Et si je préfère m'en aller ?
Radout sourit.
Nul ne vous retiendra, mademoiselle l'infirmière. Comme toutes les créatures de Dieu, vous avez votre libre arbitre. Je ne demanderai à personne de vous y contraindre, ni ne vous y contraindrai moi-même. Mais je ne crois pas que vous soyez lâche, simplement endurci, blindé.
Vous êtes un imposteur, dit Kat. Elle était furieuse, au bord des larmes.
Non, dit Rideout, parlant à nouveau avec douceur. Lorsque nous quitterons cette pièce, avec ou sans vous, Monsieur Newsom sera soulagé de l'agonie qui se nourrit de lui. Il souffrira encore, mais délivré de cette agonie. Il sera en mesure d'affronter la simple douleur, peut-être même avec votre aide, mademoiselle, une fois que vous aurez reçu une nécessaire leçon d'humilité. Avez-vous toujours l'intention de partir ?
Je vais rester, dit-elle, puis donnez-moi la boîte à déjeuner.
Mais... commença Jensen. « Donnez-la-lui, » dit Rideout. « Laissez-la donc l'examiner, je vous en prie. Mais plus un mot. Si je dois accomplir ceci, il est temps de commencer. »
Jensen lui remit la longue boîte à déjeuner noire. Kat l'ouvrit. Là où une épouse d'ouvrier aurait pu avoir rangé les sandwichs de son mari et un petit récipient en plastique rempli de fruits, elle trouva un flacon en verre vide, à large embouchure. À l'intérieur du couvercle arrondi de la boîte, sous la graffe métallique destinée à maintenir une bouteille thermos, il y avait une bombe aérosol. La boîte ne contenait rien d'autre. Kat se tourna vers Rideout. Il hocha la tête. Elle sortit l'aérosol et regarda l'étiquette interloquée.
Une bombe lacrymogène au poivre ?
Une bombe lacrymogène au poivre, confirma Rideout.
J'ignore si c'est légal dans le Vermont. J'imagine que non. Mais là d'où je viens, la plupart des drogueries en vendent.
Il se tourna vers Tonya.
« Vous êtes ?»«
Tonya Marston, je fais la cuisine pour Monsieur Newsom. »«
Ravi de faire votre connaissance, madame. J'ai besoin d'une dernière chose avant que nous commencions. Auriez-vous une sorte de massue, une batte de baseball par exemple ?»
Tonya secoua la tête. Le vent forcit de nouveau. Une fois encore, les lumières vacillèrent, et le groupe électrogène crachota dans sa remise derrière la maison.
« Et un balai ? Ah, ça oui, monsieur. Allez le chercher, je vous prie. »
Tonya sortit. Hormis le vent, ne demeura que le silence. Kat chercha quelque chose à dire, en vain. Des gouttelettes de transpiration claire ruisselaient sur les joues étroites de Newsom, elles aussi scarifiées dans l'accident. Il avait roulé. Roulé sur la piste pendant que l'épave de son Gulfstream brûlait sous la pluie derrière lui.
Je n'ai jamais dit qu'il ne souffrait pas, juste qu'il était capable de gérer sa douleur pour peu qu'il rassemble un quart de la volonté dont il a fait preuve pour bâtir son empire.
Mais si elle se trompait ?
Même si je me trompe, cela ne veut pas dire qu'il y a une espèce de balle de tennis vivante à l'intérieur de lui, en train de sucer sa douleur comme un vampire suce le sang.
Les vampires n'existaient pas plus que les dieux de l'agonie. mais quand le vent soufflait assez fort pour faire frissonner la grande maison jusqu'aux os, de telles idées semblaient presque plausibles. Tonia revint avec un balai qui paraissait ne jamais avoir poussé le moindre petit tas de balayure dans une pelle. La brosse était en nylon bleu vif, le manche était en bois peint et mesurait environ 1,20 m de long. Elle le tendit d'un geste incertain.
« C'est ça que vous voulez ?»«
Je pense que ça nous servira, » dit Rideout, même si aux oreilles de Kat, il ne semblait pas en être entièrement sûr. Il lui vint à l'esprit que Newsom n'était peut-être pas le seul dans cette pièce à avoir eu quelques boulons dévissés dernièrement.
« Je pense que vous feriez mieux de le confier à notre infirmière sceptique, sans vouloir vous offenser, Madame Marston. Mais les gens plus jeunes ont des réflexes plus vifs. »
Sans paraître offensé le moins du monde, l'air soulagé en fait, Tonia tendit le balai. Mélissa le prit et le fit passer à Kat.
« Je suis censé faire quoi avec ?» demanda Kat. « L'enfourcher ?»
Rideout sourit, dévoilant brièvement ses chicots tachés et érodés.
« Vous le saurez au moment voulu, si vous avez déjà eu à chasser une chauve-souris ou un raton laveur d'une pièce. Juste une chose, d'abord la brosse, ensuite le manche. Pour l'achever, je suppose, et ensuite, vous le placerez dans votre bocal à spécimens ?»«
Comme vous dites.
Pour pouvoir le poser sur une étagère avec les autres dieux que vous avez tués ?»
À cette question, il ne répondit pas.
« Donnez la bombe à aérosol à M. Jensen, je vous prie. »
Kat s'exécuta. Mélissa demanda.
« Et moi, je fais quoi ?»«
Regardez, et priez si vous savez le faire. Pour moi, autant que pour M. Newsom. Pour que mon cœur soit fort. »
Kat, qui voyait déjà venir une fausse crise cardiaque, ne dit rien. Elle s'éloigna simplement du lit en tenant le manche du balai à deux mains. Rideout s'assit à côté de Newsom avec une grimace. Ses genoux claquèrent comme des coups de pistolet.
« Écoutez-moi, Monsieur Jensen. »«
Oui ?»«
Vous aurez du temps. Il sera désorienté, mais soyez rapide quand même. Aussi rapide que vous l'étiez sur le terrain de football, d'accord ?»«
Vous voulez que je le foudroie ?»
Rideout se fendit une nouvelle fois de son bref sourire, mais Kat le trouva plutôt l'air franchement malade.
« Ce n'est pas une arme foudroyante. Celles-là sont illégales, même là d'où je viens. Mais c'est l'idée, oui. Maintenant, je voudrais le silence, s'il vous plaît.
Attendez une minute. »
Kat appuyait le balai contre le lit et fit remonter ses mains d'abord le long du bras gauche de Rideout, puis le long de son bras droit. Tout ce qu'elle palpa fut du tissu de coton et la chair malingre de l'homme en dessous.
« Rien dans mes manches, mademoiselle Kat. Promis. » « Dépêchez-vous, dit Newsom, j'ai mal, j'ai toujours mal, mais ce foutu temps de chien rend les choses pires. »«
Taisez-vous, dit Rideout, tous, taisez-vous. »
Ils se turent. Rideout ferma les yeux, ses lèvres remuèrent silencieusement. 20 secondes s'égrénèrent sur la montre de Kat, puis 30. Elle avait les mains moites de transpiration. Elle les essuya l'une après l'autre sur son pull avant de reprendre le balai. On dirait une réunion autour d'un lit de mort, pensa-t-elle. Dehors, le vent gronda le long des gouttières. Rideout ouvrit les yeux et se pencha tout près de Newsom.
Dieu, il y a un intrus malfaisant, cet homme. Un intrus qui se nourrit de sa chair et de ses os. Aide-moi à le chasser, comme ton fils a chassé les démons de l'homme de Gadara. Aide-moi à parler au petit dieu vert de l'agonie, vivant à l'intérieur d'Andrew Newsom, avec l'autorité de ta propre voix. »
Il se pencha plus près. Il enroula une longue main déformée par l'arthrite à la base du cou de Newsom, comme s'il voulait l'étrangler. Il se pencha encore plus près et inséra l'index et le majeur de son autre main dans la bouche du milliardaire. Il les incurva et tira la mâchoire vers le bas.
« Sors, » dit-il. Avec autorité. Pourtant sa voix était douce, soyeuse, quasi cajoleuse.
Son intonation hérissa la peau des bras et du dos de Kat.
Sors, au nom de Jésus. Sors, au nom de tous les saints et martyrs. Sors, au nom de Dieu qui t'a donné la permission d'entrer et t'ordonne maintenant de sortir. Sors à la lumière, renonce à ta voracité et sors.
Il ne se passa rien.
« Sors, au nom de Jésus! Sors, au nom de tous les saints et martyrs !»
Sa main s'infléchit légèrement et la respiration de Newsom devint râpeuse.
« Non,
Ne descends pas plus profond. Tu ne peux pas te cacher, petit démon. Sors à la lumière. Jésus te l'ordonne. Les saints et les martyrs te l'ordonnent. Dieu t'ordonne de cesser de festoyer sur cet homme et de sortir.
Une main froide agrippa le haut du bras de Kat qui faillit hurler. C'était Mélissa. Elle avait les yeux exorbités, la bouche béante. À l'oreille de Kat, le murmure de la gouvernante parut aussi rugueux que du papier de verre.
« Regarde !»
Une protubérance semblable à un goitre était apparue sur la gorge de Newsom, juste au-dessus de la main de Rideout, mollement refermée dessus. La boule se mit à remonter lentement vers la bouche. De sa vie, Kat n'avait jamais rien vu de tel.
« C'est bien !» chantonna presque Rideout.
Son col de chemise était ramolli et assombri par la sueur qui ruisselait de son visage.
« Sors ! Sors à la lumière ! Tu as fini de te nourrir, petite créature des ténèbres !»
Le vent poussa un hurlement. La pluie, maintenant mêlée de neige fondue, crépitait comme des balles contre les vitres. Les lumières vacillèrent et la maison grinça.
« Le Dieu qui t'a permis d'entrer t'ordonne de sortir ! Jésus t'ordonne de sortir ! Tous les saints et martyrs !»
Il lâcha le cou de Newsom, retirant sa main comme s'il s'était brûlé. Mais la bouche de Newsom demeura ouverte. Mieux, elle commença à s'agrandir, d'abord en un bâillement, puis en un cri silencieux. Ses yeux se révulsèrent et ses pieds se mirent à tressauter. Sa vessie se relâcha et l'urine assombrit le drap au niveau de l'aine, comme la sueur assombrissait le col de chemise de Rideout. «
Arrêtez !» dit Kat, en faisant un pas en avant. « Il convulse. Vous devez arrêter. »
Jensen la tira brutalement en arrière. Elle se tourna vers lui et vit que son visage d'ordinaire rougeau était devenu aussi pâle qu'un linge. La mâchoire de Newsom s'était décrochée et pendait carrément sur son sternum. La partie inférieure de son visage disparut dans un énorme bâillement. Kat entendit des tendons temporomandibulaires craquer comme des tendons de genoux pendant une séance de kiné exténuante, le son que produisent des gonds encrassés. Les lumières de la pièce balbutièrent, allumées, éteintes, de nouveau allumées.
« Sors !» tonna Rideout. « Sors !»
Des ténèbres derrière les dents de Newsom montaient une chose semblable à une vésicule biliaire. Elle palpitait. On entendit un fracas déchirant et la fenêtre de l'autre côté de la pièce se brisa. Les tasses à café tombèrent et se fracassèrent sur le sol. Soudain, il y avait une branche d'arbre dans la chambre avec eux. Les lumières s'éteignirent. Le groupe électrogène redémarra. Pas de crachotement cette fois, mais un grondement régulier. Quand les lumières se rallumèrent, Rideout était allongé sur le lit avec Newsom, les bras largement écartés, le visage enfoui dans la tache humide au centre du drap. Quelque chose suintait de la bouche béante de Newsom, une masse informe hérissée de courts piquants verts et sillonnée d'empreintes de dents.
« Pas une balle de tennis, » songea Kat. Plutôt une de ces balles en filaments de caoutchouc avec lesquelles jouent les enfants.
Tonya la vit et battit en retraite dans le couloir, tête projetée en avant, main nouée derrière la nuque et avant-bras plaqué sur les oreilles. La chose verte culbuta sur la poitrine de Newsom.
« Aspergez-la !» hurla Kat à Jensen. « Aspergez-la avant qu'elle puisse s'échapper !»
Oui, et ensuite, il l'enfermerait dans le flacon à spécimen et revisserait le couvercle serré, très serré. Les yeux de Jensen étaient exorbités et vitreux. Il ressemblait à un somnambule. Le vent souffla à travers la pièce et fit virevolter ses cheveux. Un cadre se décrocha du mur. Jensen exerça un mouvement de piston avec la main qui tenait la bombe à aérosol et actionna la valve en plastique. On entendit un sifflement, puis Jensen bondit sur ses pieds en hurlant. Il essaya de se retourner, probablement pour prendre la fuite sur les talons de Tonya, mais trébucha et tomba à genoux. Kat avait beau être trop abasourdi pour bouger, pour ne serait-ce qu'avancer la main, une partie de son cerveau devait encore fonctionner, car elle comprit aussitôt ce qui s'était passé. Jensen tenait la bombe à aérosol à l'envers, et au lieu d'asperger la chose qui progressait maintenant en suintant dans les cheveux du révérend Rideout, il s'était aspergé lui-même.
« La laissez pas m'attraper !» glapit-il.
Il se mit à ramper à l'aveuglette pour tenter de s'éloigner du lit.
« J'y vois rien ! La laissez pas m'attraper !»
Il y eut une rafale de vent. Des feuilles mortes se détachèrent de la branche entrée par la fenêtre et tourbillonnèrent dans la pièce. La chose verte se laissa glisser de la nuque ridée et tannée par le soleil de Rideout et choir sur le sol. Avec la sensation d'évoluer sous l'eau, Kat lui asséna un coup avec la brosse du balai.
elle la manqua. La chose disparut sous le lit, s'y glissant plutôt qu'y roulant. Jensen, toujours rampant, fonça la tête la première dans le mur près de la porte.
« Où je suis? J'y vois rien !»
Newsom s'était redressé, l'air perplexe.
« Qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé ?»
Il repoussa la tête de Rideout posée sur lui. Le révérend glissa mollement à terre. Mélissa se pencha sur lui.
« Ne fais pas ça !» s'écria Kat, mais il était trop tard.
Elle ignorait si cette chose était véritablement un dieu ou juste une espèce de sangsue bizarre, mais elle était rapide. Elle surgit de sous le lit, roula sur l'épaule de Rideout, passa sur la main de Mélissa et remonta sur son bras. Mélissa secoua le bras pour tenter de s'en débarrasser, en vain.
« Il y a une espèce de truc collant sur ces petits piquants hérissés !»
dit la partie du cerveau de Kat qui continuait à fonctionner, à celle, beaucoup plus grande, qui refusait toujours.
« Comme de la glu sur les pattes d'une mouche !»
Mélissa avait vu d'où sortait la chose, et malgré sa panique, elle eut la présence d'esprit de couvrir sa bouche à deux mains. La chose cavala le long de son cou, sur sa joue, et s'installa sur son œil gauche. Le vent hurla, et Mélissa hurla avec lui. C'était le hurlement d'une femme se noyant dans une douleur que les graphiques d'hôpitaux ne pourront jamais enregistrer. L'agonie de Mélissa dépassait la gradation la plus haute, c'était celle d'un être bouilli vivant. Elle tituba en arrière en griffant la chose cramponnée à son œil. Celle-ci palpitait plus rapidement à présent, et Kat perçut un son bas et liquide, tandis que la chose recommençait à se nourrir. C'était un bruit de succion.
Peu lui importe qui elle mange, pensa Kat.
Elle s'aperçut qu'elle était en train de se diriger vers la femme qui se débattait en hurlant.
Arrête de bouger, Mélissa, arrête de bouger!
Mélissa ne l'écoutait pas, elle continuait à reculer. Elle heurta la branche épaisse qui s'était introduite dans la chambre et s'étala par terre. Kat se laissa tomber sur un genou à côté d'elle et lui abattit promptement le manche du balai en plein visage, en plein sur la chose, en train de lui sucer l'œil.
On entendit un flac,
et soudain la chose glissa mollement le long de la joue de la gouvernante, laissant derrière elle une traînée de bave humide. Elle progressa sur le sol parsemé de feuilles, cherchant à se cacher sous la branche comme elle s'était cachée sous le lit. Kat se dressa sur ses pieds et lui marcha dessus. Elle la sentit éclater sous la semelle de ses solides chaussures New Balance. Une substance verte gicla des deux côtés comme si elle avait marché sur un ballon rempli de morve. Kat se baissa, cette fois sur les deux genoux, et prit Mélissa dans ses bras. D'abord Mélissa se débattit et Kat sentit un poing effleurer son oreille. Puis, le souffle rauque, Mélissa se calma.
« Elle est partie, Kat? Elle est partie ?»«
Je me sens mieux !»
dit Newsom d'une voix songeuse dans leur dos, comme dans un autre monde.
« Oui, elle est partie, » dit Kat.
Elle scruta le visage de Mélissa. L'œil sur lequel la chose s'était posée était injecté de sang. Mais à part ça, il paraissait indemne.
« Est-ce que tu y vois ?»«
Oui, un peu trouble, mais j'y vois. »
« Kat, la douleur, c'était comme la fin du monde. »«
Il faut que quelqu'un me lave les yeux !»
hurla Jensen sur un ton indigné.
« Allez-vous les laver tout seul ?» lança gaiement Newsom. « Vous avez deux bonnes jambes pour vous porter, n'est-ce pas ?»«
Je crois bien que moi aussi, une fois que Kat les aura remises en mouvement, si quelqu'un veut bien se pencher sur Rideout, j'ai idée que le pauvre bougre pourrait bien être mort. »
Mélissa avait les yeux levés vers Kat. L'un bleu, l'autre rouge et larmoyant.
« La douleur, Kat, tu ne peux pas te figurer la douleur. »«
Oh si, » dit Kat, « maintenant je peux. »
Elle laissa Mélissa assise à côté de la branche et s'approcha de Rideout. Elle chercha son pouls et ne trouva rien, pas même le tremblotement erratique d'un cœur cherchant encore à faire de son mieux. Rideout, apparemment, ne connaîtrait plus jamais la douleur. Le groupe électrogène s'arrêta.
« Merde !» dit Newsom d'un ton toujours guilleret. « J'ai payé 70 000 $ pour cette merde japonaise !»«
J'ai besoin qu'on me lave les yeux !»
Brian Jensen. « Kat !»
Kat ouvrit la bouche pour répondre, puis se retint. Dans l'obscurité toute neuve, quelque chose venait de ramper sur le dos de sa main.
Pour Rustor.